Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons à la quatrième preuve de l'existence de Dieu, la preuve, à mon avis, la plus belle, la plus riche, et la plus intéressante pour nous dans les applications pratiques. Je diviserai mon sermon en trois parties. Tout d'abord, l'énoncé de la preuve. Deuxièmement, les erreurs, mais ça sera très bref. Et troisièmement, les applications qui, elles, sont tellement riches et tellement belles qu'il y aura certainement plusieurs sermons. Tout d'abord, l'énoncé de la preuve. Vous constatez que un élève, un jeune, possède une certaine science. Il est manifeste que cette science, il l'a reçue. Parce que sinon, il serait déjà un docteur. La science ne fait pas corps avec lui. Ça se voit, il a besoin d'étudier. Bien. Cette science, il l'a reçue d'un maître. La science fait-elle corps avec le maître? Oh non, on a affaire à un maître qui, lui-même, n'est pas au niveau des grands docteurs de l'université. Et d'ailleurs, c'est auprès des grands docteurs de l'université que le maître a appris suffisamment pour devenir maître. Voilà pourquoi il a le grade de maître et puis le grade de docteur. Et le grand docteur de l'université, d'où lui vient sa science? De lui? Si elle vient de lui, alors il est le seul docteur et les autres ne sont pas des docteurs. Ou bien c'est lui qui l'a communiqué aux autres docteurs. On ne peut pas continuer à l'infini. Donc ce docteur-là, le grand docteur de l'université, d'où tient-il sa science? Eh bien, parce qu'il a pénétré dans le mystère d'une science qui est beaucoup plus élevée que lui, une connaissance. Seulement voilà, vous avez un docteur en mathématiques, un docteur en sciences physiques, un docteur en biologie. Ils ont tous pénétré dans une partie du mystère de la science. Seulement, quand vous arrivez à un saint, par exemple, ou un saint Thomas d'Aquin, qui a pénétré dans le sanctuaire de la science. Alors, qu'est-ce que cela prouve? Qu'il y a une science parfaite, qui est reçue à des degrés divers, et qui est la source de toutes les autres sciences. Alors, cette science est-elle une idée? Ou est-elle un être existant vraiment? Il est évident qu'elle existe vraiment. Comment les maîtres pourraient-ils entrer dans une science qui n'existerait pas tant qu'ils ne l'ont pas connue? La science supérieure, on ne l'appelle plus science parce que justement elle est supérieure, on l'appelle sagesse. Il existe donc une sagesse parfaite, infinie, qui est un mystère dans lequel tous ceux qui possèdent un brin de sagesse ont pénétré, ou bien duquel tous ceux qui possèdent un brin de sagesse ont reçu quelque chose. J'ai pris l'exemple de la science parce qu'il est plus parlant. Maintenant, si vous prenez l'exemple de l'existence, vous avez deux hommes qui existent. Si vous en avez deux, c'est qu'ils ont reçu l'existence, parce que s'ils ne l'avaient pas reçu, il n'y en aurait qu'un. Parce que ils auraient l'existence en soi, s'ils avaient l'existence en soi, eh bien, ils seraient Dieu. Donc ils ont reçu l'existence. De qui l'ont-ils reçu? On est obligé par le même raisonnement, ou bien la vie si vous voulez, on est obligé par le même raisonnement de remonter à une existence infinie, un être infini, qui est la source de tout être, qui reçoit l'être de personne et qui le communique à tout ce qui a de l'être. Cette source est nécessairement unique, parce que s'il y avait deux sources qui communiquent la même chose, ça voudrait dire qu'elles auraient elles-mêmes puisé à une source unique. Cette source est nécessairement parfaite et infinie, parce que si elle n'était pas parfaite, cela voudrait dire que la perfection serait reçue dans un sujet. Vous voyez, la vie, par exemple, en nous n'est pas parfaite parce qu'elle est reçue dans un corps. Alors, cela veut dire qu'elle est reçue, donc si elle est reçue, qu'il l'a donnée, on est obligé de remonter à une source qui soit infinie et parfaite. Cette preuve est très riche parce que elle nous prouve qu'il existe une bonté infinie, une sagesse infinie, une miséricorde infinie, une justice infinie, une vie infinie, une existence infinie. Quand elle est infinie, on ne l'appelle plus existence, mais être, un être infini. Et comme je viens de vous dire que la source est nécessairement unique, cela veut dire que ce qui est bon est en même temps miséricordieux, en même temps infiniment juste. L'infiniment juste, c'est-à-dire Dieu, Dieu est infiniment juste, infiniment bon, infiniment miséricordieux, infiniment sage, infiniment vivant, etc. On peut résumer ainsi, tous les êtres ont, le verbe avoir, ont telle et telle perfection, Dieu n'a pas la perfection, parce que ça voudrait dire qu'il y a un sujet et un objet, il est la perfection. Dieu n'a pas la bonté, il est la bonté. Dieu n'a pas la sagesse, il est la sagesse. Un docteur a la sagesse, un saint a la bonté, mais Dieu est la bonté, il est la sagesse, et il est la source de toute bonté et de toute sagesse. Alors non seulement on prouve l'existence de Dieu, mais du coup on trouve la raison de choses qui sont très mystérieuses parmi les hommes. Je vais sauter la partie sur les erreurs. Je veux arriver directement à des choses qui vous intéressent. Je vais vous donner un cas très personnel. Quand j'ai commencé, jeune prêtre, éducateur, chargé de jeunes, il est évident qu'un éducateur doit être aimé des jeunes. S'il n'est pas aimé, ça ne passe pas. Seulement voilà, on se pose la question. Je me rappelle, j'étais avec Monseigneur de Galarreta, qui me félicite pour mon amitié, pour les jeunes qui étaient autour de moi, qui lui avaient servi la messe et qui l'avaient apprécié. Et je lui dis, Monseigneur, j'en profite pour vous soumettre un cas de conscience. Le prêtre est d'abord père. Alors, je m'inquiète. Est-ce que cette amitié ne diminue pas, malgré tout, la paternité? Et Monseigneur me dit... Quelle question, voyons, on peut être parfaitement ami et parfaitement père à la fois. Oui, mais il ne me disait pas comment. Et donc j'ai réfléchi, je me suis posé la question. Et alors, soit l'amitié s'arrête à la personne. On est ami du prêtre parce qu'il est jeune, parce qu'il est gentil, parce que, etc. Est-ce une mauvaise chose ? Si cela s'arrête à cela, oui, c'est une très mauvaise chose. C'est ce qui donne source à plein de dérives, notamment chez les modernes, chez les charismatiques. Et les charismatiques ont une fausse notion de l'amour et de l'amitié. Je t'aime parce que c'est toi. Si c'était un autre, je t'aimerais pas. Mais c'est pas vrai. Je t'aime parce que tu aimes les mêmes choses que moi, ce qui n'est pas du tout pareil. Et tu m'aimes parce que j'aime les mêmes choses que toi. Tu ne m'aimes pas parce que c'est moi. Ça n'aurait pas de sens. Tu m'aimes parce que j'aime les mêmes choses que toi. Et alors à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a d'abord une mauvaise amitié lorsqu'elle s'arrête à la personne. Donc le prêtre qui veut être aimé parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce que c'est lui. Ça, c'est un amour égoïste, c'est un faux amour. Et cela se termine toujours mal. Soit c'est une véritable amitié, comme entre des gens qui font la fête, mais alors elle est très limitée, elle ne monte pas haut. On aime un ami parce qu'on fait la fête avec lui. Et il est évident que pour qu'une amitié comme cela soit légitime, il faut qu'elle soit qu'elle permette de monter plus haut. Et cela, Aristote l'a découvert d'emblée, il commence par là, et elle dit on ne peut pas parler d'amitié tant qu'on n'a pas parlé des divers niveaux de bien. Alors, il ne monte pas jusqu'à Dieu, lui. Mais il parle de l'amitié sensible, et puis de l'amitié honnête, c'est-à-dire dans la vertu, dans la science, puis nous pourrions ajouter dans la sainteté, puis dans l'amitié de Dieu. Mais lui, Aristote, évidemment, étant païen, n'imagine pas qu'on puisse avoir de l'amitié de Dieu, l'amitié pour Dieu. Il imagine une amitié reçue, enfin, qui partage des dons de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Alors je reviens à ma question. Si le jeune a de l'amitié pour le prêtre, une amitié agréable, et que cela s'arrête à cela, c'est évidemment très mauvais. Mais si c'est une marche pour monter plus haut, pour monter vers la vertu, alors là, cela devient légitime. Et non seulement cela devient légitime, mais ça devient très exigeant pour le prêtre et pour l'éducateur. C'est-à-dire que tant que le jeune n'est pas arrivé à une pure amitié de Dieu, à une découverte de Dieu en tant que Dieu, la perfection de Dieu, alors l'amitié pour le prêtre a fait un écran. Tandis que si le prêtre arrive, par l'amitié qu'il a, à faire monter le jeune jusqu'à l'amitié de Dieu, alors non seulement l'amitié n'a pas été un écran, le prêtre n'a pas été un écran, mais en plus, leur amitié, à ce moment-là, devient très riche. Quand j'étais à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, j'avais un très bon ami de 15 ans. Ce jeune aimait beaucoup cela parce que il me servait à la messe, nous faisions souvent le chemin de croix dans une église. Puis ce jeune est allé au séminaire. Et puis, il est devenu prêtre. C'est Monsieur l'abbé Chazal. Eh bien, notre amitié, non seulement notre amitié n'a pas été un écran. J'en aurais eu honte qu'elle soit un écran. D'ailleurs, François Chazal, à l'époque, jeune homme, n'aurait pas permis que l'amitié soit un écran. Non seulement elle n'a pas été un écran, mais maintenant, bien que nous nous voyions peu, hélas, elle est beaucoup plus forte qu'avant. Maintenant, si nous réfléchissons à l'amitié en général, l'amitié est un mystère, tout le monde le sent bien. Tous les jeunes sentent que l'amitié est un mystère, c'est d'ailleurs pourquoi ils veulent aimer et être aimés. Tous les grands philosophes se sont posés la question de l'amitié, Aristote, Cicéron, pour ne prendre que Sénèque, Saint Aelred de Rivaulx, un anglais, un moine anglais, qui a écrit un traité de l'amitié. Pourquoi cela? Parce qu'on sent très bien que l'amitié est un mystère qui dépend du mystère de la bonté de Dieu. Les grandes vérités, c'est l'être, la sagesse de Dieu, la vérité, et puis la bonté. Et quand la bonté est partagée, elle s'appelle amitié. Voilà pourquoi l'amitié est vraiment, on peut dire, au sommet du mystère de l'homme, et même du mystère de Dieu. Je voudrais faire une application pour les parents. Parce que l'amitié dans la famille est très riche. On y trouve à la fois l'amitié sensible, comme chez l'éducateur, hein. L'amitié sensible, le plaisir d'être ensemble, une certaine joie sensible, une certaine fête. Enfin, c'est pas pour rien que les mamans font des gâteaux pour les anniversaires, hein, avec des bougies qui brillent, bien entendu. Mais cette amitié sensible dans la famille, il est évident que sa raison d'être, c'est la vertu. L'éducation, qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est l'éducation à la vertu. Et la raison d'être de la vertu, c'est l'amour de Dieu. Donc il est évident que la famille a une amitié très riche, pas aussi riche évidemment que l'amitié du prêtre, c'est une évidence, parce que l'amitié du prêtre est à un niveau tellement sacré. Alors, pères et mères de famille qui m'écoutez, premièrement, veillez à ce que votre amitié, votre amour pour les enfants ne soit pas un écran. Pour cela, il faut que vous possédiez profondément l'amour de ce que vous voulez faire aimer, c'est-à-dire l'amour du bon Dieu. Deuxièmement, il faut que votre amitié rayonne, parce que c'est la nature de l'amitié de rayonner. Troisièmement, il faut que votre amitié soit reçue, et c'est là tout votre travail d'éducateur. Il suffit pas d'aimer le bon Dieu, il suffit pas de chercher à communiquer l'amour de Dieu, il faut travailler à ce que cet amour de Dieu soit reçu. Et voilà pourquoi, pères et mères de famille, vous devez n'avoir aucun complexe à vouloir que vos enfants vous aiment. Parce que c'est à travers l'amitié qu'ils ont pour vous, qui est une amitié inégale bien entendu, mais à travers l'amitié qu'ils ont pour vous, qu'ils arriveront à monter. Et cela vous donne une réelle autorité. Parce que, mais je crois que je ferai un serment sur l'autorité. Parce que votre autorité, d'où vient-elle ? Elle vient de l'autorité de Dieu. Et donc voilà pourquoi votre autorité est sacrée, voilà pourquoi vous n'avez pas le droit de la négliger. Et voilà pourquoi vous devez faire en sorte qu'elle soit reçue. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas du pouvoir et encore moins du pouvoir de punir. Je parle du droit et du devoir que vous avez de communiquer l'amour de Dieu et du droit et du devoir que vous avez d'être respecté dans cette communication de l'amour de Dieu. Et c'est cela l'autorité. S'il n'y a pas cette vision très haute de l'amour, de l'amitié, de l'autorité, à ce moment-là, tout s'écroule. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mères de famille, qui êtes des épouses, évidemment, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit. Le mari transmet à son épouse les exigences du sacrifice, ou détermine pour son épouse le sacrifice qu'elle reçoit dans son amour pour le faire fructifier. Et tous les deux, vous déterminez pour vos enfants, la femme en dépendance de son mari, vous déterminez pour vos enfants les exigences et la manière du sacrifice que Dieu attend d'eux, et vous veillez à ce qu'ils les reçoivent dans leur amour, cet amour que vous leur communiquez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je pense que il faut vous donner les raisons théologiques des choses, mais il faut surtout que vous en sentiez à quel point elles sont vôtres, à quel point ce mystère de Dieu est nous, et fait partie de notre être. Demandez à la Très Sainte Vierge qu'elle vous communique, qu'elle vous fasse entrer dans ce mystère. C'est tout ce que nous lui demandons en ce moment dans cette préparation à Noël. Qu'elle nous fasse entrer dans le mystère de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.